Alors, je vous propose une réflexion ce matin qui va être, vous allez dire, oui, mais on a invité un pasteur pas très évangélique ce matin. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on va faire tout un détour, et un long détour, par la philosophie, la psychologie, la psychanalyse. Ouf, on arrivera quand même, à un moment donné, à parler de la Bible. Mais on terminera par cela. Il y a une réflexion sur laquelle je voudrais faire avec vous ce matin. C'est quelque chose qui, quelque part, me hante, m'habite pour le moment. Et dans tous les milieux dans lesquels je vais, toutes les personnes que je reçois, que je côtoie, je vois de plus en plus, en fait, un problème de je. Alors voilà, le grand mot est lancé. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à réfléchir sur je. Commençons par la philosophie. Olivier Rey a écrit cette petite phrase. Dans les sociétés anciennes et traditionnelles, je est le singulier de nous. Ça va? Vous vous accrochez. Je est le singulier de nous. Ok? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Hein. Dans les sociétés modernes et individualistes, nous est le pluriel de je. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À votre avis, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Le point de départ de la société. Dans la société ancienne, c'est la collectivité qui prime. Et puis de temps en temps, il y a le jeu. Donc ici, c'est le jeu qui prime. Et de temps en temps, il y a le jeu.
Oui. Donc, en fait, dans la société ancienne, je fais partie d'un tout, et c'est lui qui, en fait compte, quelque part, me dit qui je suis. J'ai un bon ami, un vieil ami, non pas, lui il n'est pas vieux, moi je suis. Lui il est du Congo, mais, attention hein, oui, je vais en froisser quelques-uns, peut-être. Lui, il est du Kassai. Ah. Alors, je suis parti de la Belgique, mais dans la Belgique, je suis quand même un Wallon. Et moi, Jean-Marie Thomas, je suis né à Liège. À Liège, Liège. D'où le fait que quand j'ai côtoyé mon collègue qui m'a dit « moi aussi je suis liégeois », je lui ai dit « tu es d'où ?» Ben il m'a dit « je suis de Serein ». Oh. Liège, c'est Liège. Moi je suis né à Liège. Serein est juste à côté. Mais dans mon éducation, Serein c'était pas Liège. On se retrouve ça partout, hein. Dans le Borinage, ne dites surtout pas à un Montois qu'il est Borin. Ouh ! Vous aurez un problème. Non, non. On est Montois Caillot, hein, et un Borin vous dira, c'est juste entre le Borinage et Mons, mais c'est déjà les nobles de Mons. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Dans la tradition ancienne, le collectif me détermine. Mais c'est pour ça aussi que je suis mobilisé par le collectif. C'est pour ça que dans les sociétés anciennes, on pouvait être mobilisé parce que le pays était en guerre. parce qu'il fallait défendre quelque chose. Aujourd'hui, je suis assis à côté de ma femme, qui, elle, est je, dans une collectivité. Mais en fait, compte, le problème, c'est que notre Église, notre communauté locale, est-ce qu'elle est un assemblage d'individus, ou est-ce que je suis et je fais partie de cette communauté locale? Combien de fois est-ce que j'ai été, moi, pasteur dans le Borinage? Dans le Borinage, vous savez qu'il y a une communauté évangélique tous les 500 mètres. Et combien de fois est-ce que je rencontrais dans mon église quelqu'un qui venait de l'église à côté, qui avait une toute autre théologie que la mienne, et que l'église dans laquelle moi j'étais pasteur? C'était pas important, l'important c'était qu'en fait, quand je ne voulais plus avoir des problèmes avec tel ou tel, donc je changeais l'église et je venais dans telle église, peu importe la théologie, peu importe comment on y vivait. Ce qui était important, c'est que moi, je sois en paix. Il y a un problème, c'est là l'individualisme, mais l'individualisme qui gagne nos communautés. Nous ne sommes plus partie prenante de nos communautés. La communauté doit bien être heureuse que j'y participe le dimanche matin quand je n'ai pas autre chose à faire. Une communauté que l'on voit et que l'on rencontre sur Facebook. Une communauté qui se montre et qui se détermine avec cette notion de selfie. Pour ceux et celles, tiens, j'aurais dû garder ton smartphone. Ceux et celles qui, quelque part, ne connaissent pas ce terme, c'est se photographier. Moi qui suis un ancien photographe avant d'être pasteur, je vous fais beaucoup de choses, moi. J'ai rien trouvé de plus déformant que ces selfies qui ne sont jamais beaux, qui ne sont jamais bien faits parce qu'ils sont faits au grand angle et que l'on photographie pas quelqu'un au grand angle. C'est pas possible. Mais voilà, c'est la mode et la mode a d'autres critères que la beauté. Et moi. Le regard que j'ai sur moi. Tout le monde s'y essaye. Hein. Il ne faut pas croire que l'on passe à travers. Je ne sais pas si vous le voyez. De qui s'agit-il? Même le président des États-Unis, Obama, s'y essayait. Pour dire quand même qu'il était d'actualité. Waouh, il y en a d'autres aussi, hein. Il ne faut pas croire qu'il est le seul. Il y a aussi Anne-Marie et ses petites filles. Bon, bref, ça n'échappe à personne. Mais en fait, c'est l'air du temps. L'air du temps qui est un gros problème. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Allez, si je vous donne un indice supplémentaire, il s'appelle Danny Bowman. Ça ne vous dit toujours rien? Waouh, c'est que vous ne lisez pas le Sunday Post. Non, c'est Sunday? Oui, je suis fatigué aujourd'hui. Donc, un journal anglais qui, en fait, a fait la une de ce jeune homme en 2014. Car en fait, ce jeune homme avait été sauvé de la mort qu'il désirait se donner par sa mère. Et dans l'interview, elle disait que depuis 6 mois, son fils passait, alors attendez, 10 heures par jour à faire des selfies pour pouvoir poster tous les jours 200 selfies de lui. Il avait perdu 15 kilos. Il était devenu le premier addict à ce genre de phénomène. Addiction, quelqu'un qui est et qui ne sait pas se passer d'eux et qui est tenu, qui est lié par. Alors, de mon temps, je date du siècle passé, hein, presque le millénaire passé. De mon temps, on parlait de ceux qui avaient une addiction à l'alcool, qui avaient une addiction aux médicaments, qui avaient une addiction. Et les choses ont progressé. En fait, maintenant, il y a des addictions même aux smartphones et aux selfies. Et oui, il y a à l'hôpital Van Gogh à Charleroi, il y a un département pour être libéré de l'usage du smartphone. Je suis droitier, il faut pas que j'imite à droite. Ça, c'est pas moi, ça. Addiction, esclave de. Combien de fois est-ce que quand j'étais pasteur dans la région de Charleroi, j'ai servi pendant 7 ans au sein d'une communauté que l'on appelait la Croix Bleue, l'Étoile Bleue, et où les alcooliques, ceux qui essayent de se débarrasser, ceux qui essayent de se libérer de l'alcool, venaient. Et chaque fois, ces hommes, ces femmes, parce qu'il y avait des femmes que j'ai rencontrées, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui a un problème d'addiction, en fait, il se trouve devant devant une loi qui dit « tu ne dois pas boire ». Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais on leur sortait cette loi telle que, et en fait, cette loi, oui, elle est vraie, c'est une parole vraie, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'autre qui est problématique et que l'on ne voit pas toujours. C'est que si je suis addict, si j'ai une addiction à quoi que ce soit, c'est en fait parce que quelque part, chez moi, il y a un problème. L'estime de moi-même, je ne l'ai pas. Une phrase encore tarabiscotée que je vous sers ce matin. Les manifestations narcissiques, donc se regarder soi-même en ligne, sont une stratégie pour compenser la réalité et une très faible estime de soi. Plus je suis tenu et lié par ce qui me tient, en fait, cela provient du regard que j'ai sur moi-même, de ce que j'ai comme estime de moi-même. C'est pour cela que la plupart usent de quoi ? De Facebook. Aujourd'hui, hein, les commentateurs et les « j'aime », « I like », les j'aime d'autres personnes accentuent la distorsion de la réalité et consolident la désillusion narcissique en enfermant l'individu dans ce mode de vie et de rapport à l'autre. Waouh ! Le problème avec mes petites filles. Lorsque, en fait, nous étions à Madagascar, j'avais dit que je ne parlerais pas, lorsque nous étions à Madagascar, que j'ai posté sur Facebook une photo d'Anne-Marie avec, entouré des enfants, et on a eu je ne sais combien de likes. Mes petites filles, même grand-maman, elles passent les 100 likes. Nous, on n'y arrive pas toujours. Vous vous rendez compte? Le besoin le besoin du regard de l'autre sur moi-même, parce que si j'ai un regard de l'autre, parce que si j'ai des likes, c'est que j'existe. C'est que j'existe. Et vous pouvez toujours vous regarder. Oh, quelle belle photo. Oh, c'est merveilleux. Oh, t'es jolie. Oh, t'es belle. C'est toujours dans ce style-là. J'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de ce que tu me dises quelque chose à propos de moi. Mais en fait, Narcisse, puisqu'on a lâché le mot de Narcisse, Narcisse se mire à la surface de l'eau. Vous connaissez cette mythologie, hein, où le Narcisse est quelqu'un qui tombe amoureux de quelqu'un qu'il n'ose pas aborder. Alors, en fait, quand Narcisse va se regarder dans l'eau, et chaque fois qu'il se regarde dans l'eau et qu'il veut toucher sa propre image, son image disparaît. Ce qui fait qu'en fait, Narcisse reste avec lui-même. Il se noie en lui-même, car il n'osera jamais aborder l'autre. C'est peut-être aussi une des clés qui nous permettrait de comprendre l'homosexualité, où en fait, Kant, l'homosexualité n'est autre que le fait d'avoir peur d'aborder le différent, celui qui est autre et qui est placé devant moi. Donc, en fait, compte, je m'aime en aimant celui qui est semblable à moi. Narcisse, j'ai repris tableau de Michelangelo Caravaggio, j'espère que j'ai pas trop, qui a été peint en 1598. Ce tableau, au fond, c'est cet homme qui se perd dans sa propre image. Et moi, et moi, et moi. Cet homme qui est en quête de son identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Sans le savoir, comment avoir une bonne image de moi-même? Sans le savoir, il faut que quelqu'un me le dise. Car en fait, quand je n'y arriverai pas à pouvoir savoir qui je suis. Comment, en fait, compte, arriver à une bonne estime de soi? Et dès lors, quel est le sens de ma vie? Qui va donner sens à ma vie? Qui? Moi? Est-ce que moi je peux donner naissance? Est-ce que je peux donner un sens à ma vie? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est toi qui va donner sens à ma vie? Mais si toi tu disparais, qui donne sens à ma vie? Il n'y a plus de sens à ma vie si toi tu disparais. Je voudrais vous faire part d'une réflexion qu'a fait un psychanalyste, Viktor Frankl, qui était de la même origine juive que Freud, mais qui ne partageait pas les mêmes avis que Freud, et qui a été le père de la logothérapie. En fait, Frankl dit ceci, « Dans l'enfer des camps de concentration, il fallait que nous changions du tout au tout notre attitude à l'égard de la vie. » Il fallait que nous apprenions par nous-mêmes, et de plus, il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir que l'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était la vie qui nous questionne journellement et à toute heure, et nous devions donc répondre, non pas par des mots ou des médiations, mais par de bonnes actions, une bonne conduite. Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et à nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. Frankl, qu'est-ce qu'il dit? La réponse, elle est en toi. C'est à toi à déterminer quel est le sens de ta vie? Quelle responsabilité! Car si je n'ai pas les outils de départ, comment est-ce que je vais y arriver? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui, aujourd'hui, ne trouvent plus du sens à leur vie. Jürgen Moltmann, qui est un théologien allemand, a lui pris le contre-pied de Viktor Frankl, et il a écrit ceci. « L'homme ne se connaît véritablement lui-même en se regardant dans un miroir. Il se connaît dans l'appel qui lui est adressé et dans la promesse qui lui est faite. » Me connaître, avoir l'estime de moi-même, avoir du sens à ma vie ne dépend pas de moi, dit Moltmann, mais va dépendre, en fait, de l'appel que Dieu fait et des promesses qu'il nous fait. L'appel. J'en arrive à la Bible. Ouf. Vous ne me jeterez pas tout à fait, hein? Genèse chapitre 12 et verset 1 dit ceci. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Ainsi traduit la Nouvelle Bible Second le texte original qui se trouve en 12:1 de la Genèse. Un appel, va. Hors de ton du lieu de tes origines. Une promesse, je ferai de toi. Le premier mot de ce verbe, de ce verset, va-t'en, que l'on traduit généralement en français, lekleka, en hébreu, est un mot difficile à traduire. Car en fait, si on le traduisait littéralement, on pourrait traduire, écoutez bien, au lieu de va-t'en, on pourrait traduire par va-toi. Mais on pourrait traduire aussi par va pour toi. Et alors, on pourrait aussi traduire, et ce que plusieurs rabbins ont fait, va vers toi. Voilà une traduction un petit peu plus littérale. Et Dieu dit, dit Yahvé à Abraham, va quant à toi, hors de ton pays, hors de ta famille, hors de ta maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Va vers toi. Va pour toi. Va quant à toi. Hors de ton pays. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Le pays d'Abraham, c'était lequel, mes amis? Our en Chaldée. C'est où ça, Our en Chaldée? Vous savez? Ouais, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'Irak, hein? Ouais. Vous vous rappelez de la date d'Abraham, sa naissance, plus ou moins? Allez, à 100 ans près, hein. C'est quelle date? Allez, on va transiger entre 2000 et 1800, hein. Ok, pas de guerre de religion dans notre assemblée, on s'aime les uns les autres. 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les Gaulois, ceux qui avaient les cheveux blonds et les yeux bleus, ils vivaient où? Vous vous souvenez de ça? L'Europe vivait dans la préhistoire et les hommes vivaient dans les cavernes. Le pays d'Abraham, est-ce qu'il vivait dans la préhistoire? Il vivait déjà dans l'histoire, car en fait, depuis 1000 ans, il connaissait l'écriture. Les premières tablettes sumériennes remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Une civilisation qui est au top. Une civilisation qui est économiquement extrêmement forte et puissante. Le pays d'Abraham, c'est pas forcément un pays de machin bazar, hein. Il sort pas de sa brousse, hein. C'est la civilisation. Eh ben, c'est hors de cela que il doit partir. Partir de son pays. Ça veut dire quoi? Le hors d'eux n'est pas forcément un problème géographique. C'est quitter ce qu'il croit être son avoir, sa culture. Il doit sortir de son pays, il doit sortir de sa famille. Mais la famille, c'est quoi? C'est le lieu qui me donne mon éducation, mais c'est le lieu qui me donne aussi mon identité. Je suis un Européen. Il n'y a rien à faire. Il faut pouvoir sortir de sa culture. Alors vous allez me dire, oui, mais il avait raison, hein, car en fait, le pays dans lequel Abraham vivait, c'était un pays d'idolâtrie. Il faut sortir de l'idolâtrie. Amen. Et je le crois. Mais combien de fois est-ce que je n'idolâtre pas quelque chose, un système dans lequel je me trouve, qui est, en fin de compte, ma culture? Il faut sortir de la maison de ton père. Alors, si vous comprenez l'histoire comme il faut quitter ton père, eh ben, il va pas quitter son père, Abraham, parce qu'il va l'emmener avec lui pour une partie du voyage. Donc, en fin de compte, il ne faut pas penser « je dois quitter mon père et ma mère » de façon géographique. Il va falloir sortir de l'éducation de ton père et de ta mère. Ça veut dire quoi, cela? Eh bien, tout simplement, dans le système éducatif qui est le mien, dans lequel j'ai grandi, il y a ceci qui est important à savoir, c'est que mon père et ma mère n'étaient pas des gens parfaits. Leur éducation, dès lors, n'était pas parfaite. Moi, je suis... Non, je ne suis pas parfait. Il a fallu aussi que, en tant que père, un jour, prenant conscience du problème éducatif que j'avais communiqué à mes enfants, j'ai dû leur dire, les réunir et dire « Je vous demande pardon pour cela. » Vous voulez savoir ce que c'était comme demande de pardon? J'ai fait passer l'Église avant vous. Ça, c'était ma demande de pardon à mes fils. Bah oui, les fils, ils étaient toujours à l'école, ils étaient à l'école du dimanche, ils étaient dans le groupe de jeunes, ils étaient partout avec nous. Alors, bon, pourquoi se préoccuper d'eux, puisqu'ils étaient toujours là? J'ai dû demander pardon à mes fils pour cela. Et quelque part, dans notre éducation, nous blessons nos enfants. Sortir de la maison de ton père, c'est aussi sortir de tes blessures et des blessures éducatives. En fin de compte, combien y a-t-il de jeunes qui se marient, bouge tes oreilles, qui en fin de compte arrivent dans le mariage avec leurs blessures et ils ne font que de renforcer les blessures qu'ils ont. Et puis on se demande pourquoi on a des conjoints blessés et pourquoi est-ce qu'on en arrive à, tout doucement, à une séparation. Je crois que c'est là un appel que Dieu adresse à Abraham, un appel à sortir de ce qui le constitue, de ce qu'il croit être sa culture, son éducation, son mode de vie, pour en fin de compte découvrir quoi ? Découvrir une plus belle culture ? Pour découvrir une plus grande civilisation ? Mais non, en fin de compte, ça va être pour aller vers le pays que je te donnerai, vers la promesse que Dieu accorde. Mais en fin de compte, plus que le pays, c'est quoi ? C'est lui. C'est aller vers Dieu, aller vers le Seigneur qui appelle, c'est aller vers moi. Dans ce magnifique chant que nous avons chanté tout à l'heure après la Sainte Cène, après dans ce chant, il y avait une confession de foi dans laquelle on nous disait que Dieu s'était fait homme, le Jésus historique. Mais Jésus, souvenez-vous d'une chose, c'est qu'un jour, à la crucifixion, lors de son procès, après, entre le procès et la crucifixion, il est poussé en avant par Pilate au balcon. Et qu'est-ce que Pilate fait comme déclaration ? Une déclaration extraordinaire. Voici l'homme. Si tu veux être, et si tu veux savoir ce qu'est l'humanité, si tu veux te savoir ce qu'est constitue un homme et une femme, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et tu verras quelle est la promesse que Dieu a pour toi. Aller vers. Ouais, c'est la El Al, hein, c'est elle, c'est aller et prendre de la hauteur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Lorsque l'on quitte et lorsque l'on sort de ce que l'on croit être ce qui notre avoir et notre constitution et que nous allons vers Dieu et ce qu'il nous montre, en fin de compte, nous allons avoir cette certitude que Dieu va bénir et nous bénir. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Il est temps de prendre un élan. Oh, je croyais qu'il y avait un texte qui venait dessus. Il est temps de nous lever. Pourquoi est-ce que je dis nous lever ? Tout simplement parce que nous sommes juste après le temps de Pâques. Et nous l'avons chanté, nous le savons, mais en fin de compte, il faudrait le vivre. Jésus est mort sur la croix, écartant les bras et les ouvrant au monde entier, afin que nous soyons réconciliés avec lui et avec le Père, au travers du sacrifice donné. C'était comme ça que je peux être purifié et que je peux être sauvé. Mais il y a une chose que nous avons dite et que nous avons attestée, que nous avons manifestée au dimanche de Pâques. Jésus est vivant. Jésus est le ressuscité. Mais vous savez comment on dit ressuscité dans la Bible en grec ? Ben, il n'y a pas de mot pour le dire, hein, parce qu'il n'y en avait pas d'autre avant lui. Hein. Donc on n'a pas de mot pour le dire. Comment est-ce qu'on va dire la résurrection en grec, puisqu'il n'y a pas de mot ? Eh bien, on va utiliser tout simplement ce mot, se mettre debout, se lever. Et nous avons à nous lever. Nous lever d'entre les morts. Nous enlever d'entre le système dans lequel nous enferme la société dans laquelle nous sommes, où, en fin de compte, je dépends des autres pour savoir qui je suis. Eh ben non, c'est pas Facebook qui va te dire, même si tu as 1000 likes, c'est pas Facebook qui va te dire et qui va donner un sens à ta vie. C'est la parole de Dieu qui va donner un sens à ta vie. C'est Dieu qui va te donner un sens à ta vie, et c'est en écoutant la parole de Dieu que je peux ainsi me mettre à la suite de Jésus et me mettre debout. Debout pour me mettre en marche. En marche vers mon avenir. Car Dieu a un avenir pour toi. Dieu a un avenir pour moi, et il a un avenir fait de bénédiction. C'est le Seigneur qui est et qui me donne un sens à ma vie, à mon existence. Comment entendre la parole ? Comment entendre son appel ? Mais précisément en se mettant à l'écoute de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure « Dieu m'écoute ». Oui, Dieu m'écoute. Mais toi, est-ce que tu écoutes Dieu ? Est-ce que tu te mets à son écoute ? Est-ce que, au travers de sa parole, Dieu peut encore te parler par son Esprit Saint ? Ou est-ce que tu as définitivement décidé de « la Bible, ça ne sert à rien », si ce n'est à prendre la poussière sur ma table de nuit ? Écoutez l'appel, parce que Dieu n'a pas fait qu'appeler Abraham. Dieu a appelé Jean-Marie. Mais il n'a pas seulement appelé Jean-Marie, il a appelé aussi Anne-Marie. Il a appelé Gaston. Mais tu peux mettre ton nom, car en fait compte, Dieu appelle. Et même si aujourd'hui, tu n'as pas encore répondu à son appel, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à regarder à lui afin qu'il donne sens à ton existence en vue d'hériter de la bénédiction. C'est la promesse que Dieu nous fait. Et Dieu tient ses promesses. Oui et amen en Jésus, dit l'apôtre Paul. Et c'est vrai. Je vous invite à la prière. Seigneur, combien de fois est-ce que je cherche de gauche et de droite ? Et dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde qui nous enferme dans les ténèbres, dans l'obscurité, afin de mieux me manipuler, nous manipuler, et faire de nous des instruments. Je cherche à savoir qui je suis. Je cherche à savoir si ma vie a un sens. Quel est le sens de ma vie ? Combien de fois est-ce que En nous, il y a cette pensée, mais est-ce que j'existe pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'aime? Seigneur, nous l'avons dit et nous l'avons proclamé et nous le redisons encore. Ton amour est inconditionnel. Alors que nous étions encore des rebelles, alors que nous étions encore de ceux qui, quelque part, se refusaient à toi et refusaient d'entendre ta parole, tu es mort pour nos péchés, afin que nous héritions de la vie, la vraie vie, celle qui n'en finit pas, celle qui est éternelle. Et nous te demandons encore aujourd'hui, Père, de nous parler aux uns et aux autres, et qu'au travers de ta parole, par l'aide de ton Esprit Saint, nous soyons capables d'entendre encore ce que tu as à nous dire, afin de nous libérer de tout ce qui nous enserre, de tout ce qui nous retient prisonniers, de toutes les addictions dans lesquelles nous sommes, afin d'être libres, libres pour toi, libres de pouvoir suivre ton chemin et libres de pouvoir aller vers notre avenir. Père, je te demande que ta parole puisse encore retentir dans nos cœurs, que ton Esprit Saint nous éclaire encore sur ce que tu as à nous dire et que mes frères et mes sœurs soient au bénéfice de cette rencontre. Accorde-nous de prendre le temps de te chercher. Et nous savons que tu nous trouveras, car tu nous as déjà trouvés. Merci de nous rejoindre. Merci de faire cheminer avec nous là où nous sommes et de nous conduire plus loin. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.